Alors, la compagnie des jours tranquilles, Fabrice Gorgerat met en scène une pièce qu'il a conçue au matin. Au départ, c'est extrait d'un texte Mauvais sang qui avait déjà donné lieu à une prolongation cinématographique de Léos Carax. Mais ici, on est dans une ambiance peut-être moins rabaldienne, quoique je est un autre, l'hétéronomie, le rapport au miroir est présente. Alors, cette phrase, vous allez nous la rappeler, et puis nous dire en quoi justement ce sentiment de d'étrangeté à soi-même vous a éveillé peut-être à ce moment très particulier, un petit peu charnière, un petit peu tournant, où on a encore la peau de la nuit sur le corps et qu'on n'est pas, on s'est pas encore ébroué dans l'hypnose du jour. Alors, déjà pour Rimbaud, le point de départ.
Alors la phrase « Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu », c'est une phrase que j'ai complètement sortie de son contexte. Hein. Elle m'a très vite parlé, elle m'a très vite rappelé un état matinal justement où tout est... Allez, un sentiment de vide, où tout est possible, où tout est impossible. Qu'est-ce que c'est que ce vide? Qu'est-ce que la valeur de ce qui nous emplit si on peut se sentir vide à ce point-là au matin? Je trouvais ça intéressant. Après, l'idée était de faire une espèce de reconstruction à partir du vide. Soi-même, sa peau, ses craquements, ses bruits, ses propres bruits, l'autre, l'objet, son regard, et comment est-ce qu'on peut se réapproprier son image, comment voilà, l'enjeu était là pour moi.
Alors des enjeux multiples, si on reprend Hegel, pardonnez du peu, le quotidien en somme, c'est la volonté, selon lui, de faire forme, c'est-à-dire le désir de se donner une certaine figure spatiale, une certaine figure temporelle, causale, une figure qui va affirmer un certain ordre, une mesure et une assurance face à une situation absolument déterminée. Alors sur cette figure spatiale, qu'est-ce que vous avez voulu créer justement par rapport à ça? Car d'espace, il y en a beaucoup question.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tricher, de pouvoir garder ce flou. J'ai l'impression que dès que le contour est trop donné, on est mort. Et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on triche pour garder toujours une image quand même assez floue de nous-mêmes? En même temps, on aimerait toujours, et là c'est un peu maintenant, on aimerait toujours que, allez, notre image coïncide complètement avec ce qu'on est, on devrait pouvoir. Voilà, je suis ça, je suis cette image, et en même temps, s'il y a adéquation, c'est un peu la mort. C'est quelque chose de complètement figé, ça n'existe plus. Donc je crois qu'on entretient volontairement un flou tout en essayant... Allez, c'est la convention maintenant. Paf, je dois pouvoir lire qui tu es sur toi en 3 secondes. Tu as des lunettes, tu es comme ceci, tu es comme cela, donc tu es ça. Pam. Et du coup, il y a toujours ce jeu entre l'image qu'on donne et puis l'idée qu'il faut toujours se préserver quand même une liberté par rapport à ça. C'est assez intéressant. Donc on a effleuré un petit peu ça aussi. On a travaillé à partir de plein de textes, plein de choses. Il y a eu cette phrase, mais après j'ai travaillé avec deux dramaturges. Où on allait dans des textes complètement divers, quoi. Un dramaturge qui nous amenait plutôt des matériaux littéraires. On essayait de voir ce que ça pouvait donner concrètement sur du plateau, comment être un corps, avoir un corps, toutes ces choses-là, en questionnant toujours ces espèces de limites comme ça.
Mais sur la présence justement de Jean Baudrillard, je crois qu'il y a un extrait. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de Jean Baudrillard qui a été un compagnon de route de longue date avant sa disparition, des rencontres internationales de la photo d'Arles, dont il a été aussi co-commissaire. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de photos, justement du quotidien aussi, parfois très étrange, parfois décalé, très hyper-réaliste. Donc pourquoi ce choix en fait de Baudrillard qui s'imposerait peut-être hein, même de manière naturelle, mais pas si évidente que ça?
Alors c'est un long chemin parce que à partir de la phrase de Rimbaud, tout me ramenait au mythe de Narcisse à un moment. Donc je me suis dit tiens, on va le creuser à Donf et on a fait plein d'improvisations, plein de recherches autour de Narcisse comme ça. Et en parallèle, je suis tombé sur ce bout de texte qui parle justement du renversement sujet-objet. Je me suis dit, mais tiens, c'est incroyable, ce Narcisse, en tout cas chez Ovide, c'est vraiment, c'est l'objet, c'est le désiré. Et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait le mettre. Et il était en commentaire quand il y avait encore vraiment des bribes du mythe dans la pièce, que j'ai sucré et lui est resté. Donc c'est vraiment tout un espèce de cheminement. Et après, dans la reconstruction matinale, moi, ça me faisait rire de voir ce type avec son amoureux de son naisseuse et de parler en simultané du rapport objet-sujet, l'objet devenant, en l'occurrence, l'essoreuse toute puissante. Et voilà, c'est un peu...
Alors justement, ce qui frappe aussi, peut-être au stade du miroir ou ailleurs, c'est qu'il est sans doute plus facile de décrier le quotidien que de le décrire. Vous en êtes d'ailleurs l'illustration, si j'ose dire. Mais comment, justement, son aspect répétitif doit-il être entendu, selon vous? Parce que je crois que la répétition est un petit peu aussi au cœur, avec la lenteur, de votre gestion de plan-séquence, là.
La répétition... Vous trouvez ça répétitif? Je l'ai été plus dans ma carrière. Mais là, je parlerais plutôt d'accumulation que de répétition. Des accumulations de miroirs pour des accumulations de miroirs, d'images, des accumulations de cafetières pour raconter des matins et des matins. Mais je crois que la répétition ne se fait pas dans le temps, mais plutôt dans l'image. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit, il y a 6-7 percolateurs, il y a plein de miroirs, il y a plein de choses. Et c'est pas des... Oui, je crois que c'est... Vous voyez ce que je veux dire. Et au-delà de ça, par rapport aux lenteurs, ça c'était aussi un espèce de désir. J'ai toujours eu un vocabulaire très frontal, rock'n'roll. Et j'avais envie de partir sur autre chose, de travailler sur une douceur, sur un voyage intérieur, sur... voilà, c'est plutôt ça. Tout en gardant des... J'ai un vocabulaire scénique, je crois, qui est... qui travaille sur la superposition d'images plutôt que l'accumulation, sur deux choses à la fois, trois choses à la fois, des tableaux qui glissent, des univers qui se créent, qui se chiffonnent, qui repartent. Et j'avais envie de pouvoir mettre en place un... Ça c'est par rapport à la lenteur du début, mais quelque chose d'un peu hypnotique comme ça, où on rentre doucement et hop. Et, parce que l'idée aussi est de ne pas donner du sens, de ne pas donner un matin identifiable d'entrée de jeu, d'essayer d'aller par touche, par bribes, par fragments qui se carambolent un peu, qui se rencontrent comme ça, pour laisser la possibilité au spectateur de poser du sens sans faire un n'importe quoi où il pose tous les sens qu'il veut. C'est toujours ça, je trouvais une espèce de valeur poétique à la chose, en tout cas au sens où j'entends la poésie.
Comment vous l'entendez?
Oulala. Comme quelque chose qui ouvre des espaces, qui en ouvre et qui en ouvre et qui en ouvre. Et... quelque chose qui va, en tout cas, ailleurs qu'à l'intellect pour moi, même si après l'intellect est nécessaire pour revenir dessus, mais qui parle ailleurs qu'à l'intellect et qui... Moi, j'arrive avec des intuitions, des textes, j'ai parlé de ces deux dramaturges, des textes que j'ai écrits, des textes que d'autres amènent, et on a vraiment plein de matériaux, là, pendant 2 semaines, on ne fait que penser, à peu de choses près, et à partir de ça, on travaille pendant... un mois et demi en improvisation. Alors quand je parle d'improvisation, c'est que je donne ça peut être des bribes de poèmes, ça peut être des bouts de texte, bref, des choses comme ça aux comédiens. Ils doivent revenir faire des... ils doivent performer le lendemain à partir de ça. Et ce qui fait qu'on a une succession de rush. On a des heures et des heures de rush, et je note tout, je garde tout, et 2-3 semaines avant la première, là, je fais vraiment un espèce de montage pour que les choses prennent sens. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en parlant de Baudrillard, qui arrivait là par hasard après 4, 5, 6 trucs de montage où on a coupé dedans, où on a... Et tout d'un coup, tout ça prend sens en étant complètement sorti du contexte de l'improvisation. Parce qu'on, justement, on a beaucoup improvisé sur le mythe de Narcisse. Parce qu'il se retrouve là, peut-être des choses, mais en même temps pas des choses si évidentes que ça. On a improvisé sur de mes textes, on a improvisé sur plein de choses. Et vraiment, Oui, la notion de montage est assez essentielle.
Alors, si on reprend la toute première scène avec cet alphabet qui apparaît un peu de ténèbres, comme ça, déchiré, assez pénible, ce reflet dans une cuillère à café, il y a une théorie des rêves qui dit en fait que lorsqu'on se réveille, le rêve, ça serait environ 10 secondes, c'est-à-dire c'est une forme de réinitialisation du disque dur pour qu'on arrive à parler, pour qu'on arrive à structurer un certain nombre de choses. Et c'est tellement violent comme sentiment, c'est une hypothèse, qu'on y met des images, il y a des images qui en ressortent. Mais qu'est-ce qu'il en est justement sur cette espèce de rituel comme ça, d'émergence, comme on l'a appelé ailleurs, que vous faites ici, dans ce cadre-là, même s'ils ont leur étrangeté, j'entends, mais de quoi ça participait?
Ben, j'aime bien l'idée de réinitialisation, parce que c'est ça, je n'ai jamais formulé comme ça, mais il y avait vraiment Alors là aussi, il y a tout le chemin du montage. C'est drôle parce que dans le plan que j'avais fait, avant de les faire improviser tout au début, je voulais qu'il y ait une espèce de catastrophe narcissique qui permette d'énoncer la phrase de Rimbaud. Et je voulais qu'il y ait un espèce de cauchemar ou qu'est-ce qui se passe avant qu'on dise au matin j'avais le regard si perdu. Et du coup, c'est là qu'on a construit cette scène. Que je l'ai construite pour que le texte puisse en émerger. Et il y avait vraiment, justement, une réinitialisation à travers l'alphabet. Je réapprends l'alphabet, j'essaie de remettre les choses en place. Annabelle va aller écouter son corps. C'est comment est-ce que j'entends et comment est-ce que je peux exister juste à travers. Et la scène de Maud avec la petite cuillère, alors là, ça arrivait de nos improvisations sur Narcisse, où avec quoi est-ce qu'on peut se voir, comment est-ce qu'on est déformé, comment est-ce qu'on peut jouer avec ça, et qu'est-ce que ça induit dans le corps, dans les mouvements de corps. Et...
Alors justement, c'est un deux pièces que vous présentez, je crois six machines à café, il y a des miroirs, des lampes. Ces choix scénographiques, de quoi participaient-ils justement? Parce que on a toujours un rapport très clair, presque amniotique avec les éléments, c'est-à-dire que c'est très organique avec les cheveux, la peau. On a l'impression que le décor, mais il complète aussi un peu ça, même si ça peut paraître paradoxal. Alors pourquoi ce choix justement de...
J'avais déjà envie d'un truc très très ancré, très concret, et en même temps, il fallait trouver le petit décalage poétique qui permette de jouer. C'est-à-dire le système de deux pièces permet quand même les créateurs de jeux. On a essayé une fois. Avec ces lampadaires, on essayait de voir ce qu'on pouvait en faire. Tout d'un coup, ça devenait une forêt. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, une forêt sans forêt. Ceci a peut-être amené l'idée des feuilles, etc. Et c'était que des choses un peu comme ça. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir un... J'avais envie d'un deux pièces quelconque, qui ne fasse pas vieux truc kitsch, très mode d'ailleurs, qui ne fasse pas hyper design high-tech. Trouver un rien... Et trouver la poésie de ce rien.
Alors, la poésie de ce rien, elle est aussi un brin déglingué, puisque les scènes se finissent souvent par une certaine forme de montée de violence et d'agressivité. Justement, pourquoi cette dérégulation, ou peut-être cette manière d'exacerber au maximum le papillonnement des possibles pour arriver justement sur cette violence?
Moi, cette violence, il y a quoi, deux, trois montées comme ça, qui sont autant d'échecs. J'avais envie de quelque chose qui progresse en sourdine, quelque chose d'assez lourd et qui tout d'un coup fait des essais ratés pour aller se cogner contre une vitre ou pour aller se cogner contre n'importe quoi, mais qui devait être une espèce de rythmique, mais une rythmique de l'impossibilité, de l'un, je les voyais comme englués et du coup, c'est aussi pour que la scène finale devienne justement la scène d'ouverture. Toutes ces montées de violence sont des impossibilités, en tout cas, sont pas des. C'est pas une violence libératrice, c'est pas une violence.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans le, par exemple, je sais pas, dans le surréalisme ou dans le cinéma burlesque, par rapport à des stratégies de survie, par rapport à ce caractère d'accumulation, justement, qui vous a attiré? Parce qu'on a l'impression que peut-être on pouvait se dire avant que la vie quotidienne, c'était une sorte de résultat d'un long processus, un processus de domestication du monde, un processus de, disons, de maîtrise de son étrangeté, de son incertitude. Or, vous, on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on le parcourt, il se dérobe à nous, d'une certaine manière. Il y a une autre réalité qui s'ouvre derrière, on n'est pas chez Lynch, etc. Mais j'entends, il y a quelque chose d'autre sous la surface du monde quotidien. C'est une réalité assez particulière que vous faites apparaître quand même.
On a beaucoup travaillé sur le narcissisme, autant avec des psychiatres, donc qui sont venus qu'avec des psychologues, et on réfléchissait au rapport à notre propre image, comme ça. Et il y a quand même l'idée qu'à un moment où on ne s'inscrit plus dans le temps, c'est-à-dire dans un rapport à son propre passé, ou dans un rapport à son avenir, à l'avenir, soit à sa famille, soit, comment dire, on se définit plus dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est pas là pour un projet politique, on n'est pas là pour faire avancer sa lignée, on n'est plus là pour rien de ceci. Donc, on tombe fatalement dans une relation d'immédiateté. Et c'est ça qui nous fige aussi complètement, je pense. Et c'est ça qui... Allez, qui développe une espèce de culture du narcissisme qui est tout sauf profonde et qui en même temps est hyper profonde. Il y a cette espèce de déchirure là qui est vraiment qui est très intéressante. C'est mon image qui doit me dire qui je suis. Et c'est même plus ce que j'ai fait, c'est même plus ce que j'espère pour ceux qui suivront, c'est même plus ce que j'espère de la lutte, c'est même plus ce que j'espère de quoi que ce soit. C'est juste mon image là. Et même après, c'est là où ça devient assez drôle. C'est même si mon image est, comment dire, même si j'ai des engagements politiques, et j'en ai. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est mon engagement ou l'image du pseudo révolutionnaire à 2,50 francs, ou je sais pas, qu'est-ce qui me définit? Est-ce que j'attends vraiment quelque chose de la lutte, ou est-ce que c'est le fait que j'ai l'impression que je suis en train de lutter qui est intéressant? Et c'est là où il y a des choses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des décalages dans l'image qui sont assez intéressants. Ça, c'était une des réflexions de départ, et que je ne voulais pas justement politique, et que je ne voulais pas, parce qu'alors on rentre directement dans je suis d'accord, pas d'accord, et on, dès qu'on devient trop didactique, pour moi c'est la mort de quelque chose aussi.